Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Marie. On parle souvent de santé au travail, sans savoir réellement ce que cela implique ou engendre pour les salariés. Marie exerce comme infirmière dans ce secteur et va dépoussiérer pour vous tous les a priori de ce métier. Bonne écoute. Bonjour Marie.
Bonjour Marielle.
Bienvenue sur Compresse et Sparadra. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour que tu puisses parler de ton métier qui est une énième facette du métier d'infirmière. Je ne sais pas si j'arriverai pendant l'histoire de ce podcast à passer en revue les différentes facettes du métier, mais en voilà une nouvelle qu'on n'avait pas encore abordée. Donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui.
Et bien de même, merci de me recevoir.
Alors pour commencer, Marie, je te laisse te présenter.
Eh bien, du coup, je m'appelle Marie, c'est sans surprise, tu viens de le dire. J'ai 39 ans, j'ai deux enfants, une grande qui a 16 ans et une petite qui va avoir 6 ans. Et je suis infirmière depuis 2014 maintenant. Je suis rentrée à l'IFSI en 2011 avec le nouveau référentiel. Et du coup, me voilà sortie en 2014 avec plein de projets et du coup, tout a été bousculé après.
Moi, j'aimerais bien savoir ce qui t'a amené vers ce métier. Je crois, d'après nos échanges qu'on a pu avoir auparavant, que tu as eu une autre carrière avant d'être infirmière.
Donc j'en ai eu beaucoup.
Je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a amené vers le métier ?
Et ben en fait j'ai toujours été un peu dans le médical, toujours orientée vers les gens parce que j'ai commencé à faire du secrétariat médical. Donc j'ai travaillé avec plusieurs médecins dans un cabinet pluridisciplinaire. Et puis ensuite j'ai voulu aller un petit peu plus loin parce que je commençais à m'ennuyer. C'est un peu le levier à chaque fois qui m'a fait évoluer, c'est l'ennui. Donc j'avais besoin de faire plus, donc je me suis formée en tant qu'assistante dentaire. Et j'ai été assistante dentaire pendant un peu plus de 3 ans dans un cabinet d'orthodontie. Et donc là, ça m'a permis de faire un peu de travail à quatre mains, de faire à la fois du secrétariat, mais aussi du coup de commencer à faire des petites choses, donc de la stérilisation, un petit peu de préparation de moulage, d'approfondir un petit peu. Et ça m'a permis d'aller plus loin. Donc ensuite, pareil, je me suis ennuyée. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de moi ? Parce que c'est vrai que depuis petite, j'avais des rêves. Et puis, et je pense que j'ai manqué peut-être un petit peu d'ambition, un peu de confiance en moi. Et je suis restée un peu bloquée en me disant que j'étais pas capable de réaliser certaines choses. Et puis un jour, j'ai voulu aller voir ailleurs. Je me suis retrouvée à nouveau dans du secrétariat médical pour un groupement d'anesthésistes. Et un anesthésiste, un jour, me dit, j'arrêtais pas de lui parler... du bloc, de tout ça, j'avais vraiment une curiosité pour tout. Et un jour, il m'a dit, viens au bloc, viens voir. Et là, je suis rentrée là-dedans, j'ai vu les infirmières travailler, j'ai vu vraiment l'envers du décor, on va dire. Et j'ai été happée en me disant, ça fait tellement envie, tellement. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je serais fière, moi, d'être à leur place. Et du coup, ce médecin, je lui dis, moi, j'ai plus l'âge, c'est fini, je peux pas reprendre mes études. J'avais déjà ma fille, j'étais déjà maman, et puis je lui ai dit non, c'est trop tard pour moi. Donc il m'a dit, mais combien il te reste d'années à travailler, Marie ? Ah !
C'est une très bonne question.
Hein. Avant la retraite, je me suis dit, finalement.
Un petit paquet quand même.
Il en reste un petit peu. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est finalement 3 ans comparé à tout ce qui va me rester en années à travailler ? Est-ce que j'ai pas envie de faire un métier vraiment passion, un métier qui me plaît ? Et est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, de se confronter à mes peurs et puis d'y aller, quoi ? Donc voilà, ça a été un peu l'élément déclencheur. Je suis repassée depuis lui faire un petit coucou pour lui dire qu'il avait bien fait de me pousser. Donc me voilà rentrée en école d'infirmière en 2011. Et donc j'en suis sortie en 2014. Et je dirais que j'ai assez vite déchanté, en fait. J'ai trouvé qu'on nous donnait beaucoup de possibilités en tant qu'étudiants de prendre en charge nos patients, d'avoir du temps pour eux, de nouer une vraie relation, d'avoir un vrai suivi. Et là, je me suis retrouvée jetée au milieu d'un service à faire des tours de tension, à donner mes médicaments vraiment au lance-pierre, à me stresser moi-même, à me dire « vite, prends ton médicament, vite !» J'avais l'impression de faire très mal mon travail, d'être frustrée, de rentrer chez moi, d'avoir oublié 1000 choses, Je rappelais mes collègues, on s'envoyait des messages. On était toutes jeunes DE à ce moment-là dans ce service. Et on s'envoyait beaucoup de messages et on décrochait jamais, en fait, parce que on envoyait des messages en disant, mais est-elle patient, est-ce que j'ai fait ça? Est-elle soin, est-ce que je l'ai coché? Et je me suis retrouvée dans un engrenage qui m'a complètement dépassée, où j'avais l'impression de plus m'y retrouver du tout. Mmh. Et donc là est venue la deuxième grossesse qui m'a mis un peu à l'écart de tout ça, parce que j'ai été vite arrêtée. Et du coup, ça m'a permis de faire une petite mise au point et de reculer vraiment par rapport aux situations. Et de me recentrer sur... On dit, voilà, quand on est enceinte, c'est vrai qu'on se recentre un peu sur soi, sur l'essentiel. Et ça remet en perspective un peu tout ce qu'on avait pensé de nous, de notre avenir.
C'est un peu une période de bilan.
Complètement. Complètement. Et du coup, ça m'a permis à cette époque-là de me dire, bon, ben... Ok, je suis infirmière, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que j'ai pas envie de me dire j'ai fait mes études pour rien, j'ai pas envie d'abandonner.
Et il est très vrai ce paradoxe entre la période où t'es étudiant et on te dit prends le temps de faire tes soins, de t'occuper de tes patients, de les connaître par cœur. Puis c'est vrai qu'une fois que t'es diplômée puis que t'es au travail, il y a plus du tout le temps pour ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu, moi, effacé de ma mémoire, mais je me revois tout à fait dans ce que tu expliques.
Oui, pour moi, ça a été vraiment très difficile de passer de cette phase d'étudiante à cette phase de jeune diplômée. Le fossé a été trop important pour moi. Bon, j'ai vu que j'étais pas la seule, visiblement. Mais bon, en tout cas, moi, voilà. Donc, j'arrive à cette période-là, grossesse, arrêt pour la maternité. Et je me pose mille questions à me dire, mais... Est-ce que vraiment j'ai envie d'y retourner? J'ai vraiment des questionnements qui tombent dans ma tête. Et je me dis, bon, je tente le tout pour le tout. J'appelle ma direction des soins infirmiers, qui s'occupe du coup de la gestion des postes de travail. Et donc, j'appelle la cadre sup en lui disant, ben, moi, j'aimerais bien revenir, mais dans un autre service. Je veux moins de contraintes. Alors, je me suis dit, bon, c'est bien de demander la lune. Hein, c'est... mais je me suis dit, ben, qui ne tente rien à rien, je verrai bien après
mais
tout.
Complètement,
si je ne demande pas, ouais. Je ne saurai jamais.
Mais t'as bien fait.
Et donc, je lui dis, bah, je veux plus de week-end, je veux plus de soirée, je veux des horaires de jour, je veux être autonome, je veux plus de service avec des tours de constante, je veux plus de tout ça. Et donc là, bah, contre toute attente, en plus, je suis venue avec mon bébé, avec tout, enfin, vraiment le rendez-vous presque hyper cata ce jour-là. Je suis venue comme un cheveu sur la soupe. Heureusement, elle était adorable. Et puis, elle m'a dit, bah, Marie, j'ai deux postes, un poste en HDJ, donc l'hôpital de jour, qui était un poste effectivement sans week-end, entrée-sortie dans la journée pour des patients qui venaient pour des chirurgies. Et puis, il y avait un poste qu'on appelle maintenant, c'était l'anciennement planning familial.
Ah oui, d'accord.
Donc, le centre de planification et d'éducation familiale, CPEF, ça s'appelle comme ça maintenant. Et ils avaient du coup pour ambition d'ouvrir, on va dire, un mini-service dans le service. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un service de gynéco, suivi mater, un petit peu tout ça, côté consultation. Et ils voulaient absolument ouvrir une voie, justement, pour les femmes, pour la contraception, pour l'accès à l'IVG, tout ça.
Ok. Et ils étaient à la recherche d'infirmiers et pas exclusivement de sage-femme ou d'auxiliaire?
D'une infirmière, plus particulièrement, pour mener le projet, parce que c'était une création de poste.
D'accord, ok.
Et donc, je me suis dit, mais quel super challenge, en fait, parce que...
Ouais, c'est stimulant.
Ouais, il y avait tout à faire. Donc, j'ai choisi ce poste-là, et puis je me suis retrouvée, premier jour où la cadre, du coup, me montre mon bureau, je me suis retrouvée dans un bureau sans fenêtre, au
génial.
Milieu du service, qui devait faire 10 mètres carrés, avec le néon qui crie, là, tu vois, qui clignote. Ouais. Pas d'ordinateur, Et on m'a dit, eh ben voilà, bon courage.
Donc, super.
J'ai l'art de débarquer dans des trucs un peu bizarres. Et donc, on m'a demandé de reprendre toute la commande de pharmacie qui était faite par des auxiliaires de puère. C'était fait comme ça jusque-là et on m'a dit, faut reprendre ça. Donc déjà, t'as l'impression de devoir reprendre la main sur des collègues qui le font depuis des années. Donc t'y vas piano, piano. Et puis, donc, il a fallu tout monter, donc le parcours patient, voilà par quel biais on allait récupérer ces femmes en demande de consultation. Et donc, j'ai, entre guillemets, organisé tout ça avec quatre médecins qui s'occupaient de recevoir, du coup, les patientes. Une sage-femme qui est venue par la suite, qui a fait un DU en contraception. Okay. Et qui est venue rejoindre l'équipe, on va dire. Donc, c'était des prises de rendez-vous, des entretiens avant IVG, des orientations, assistante sociale, psychologue, l'organisation du parcours de la patiente quand c'était des IVG chirurgicales. Donc, il y a eu tout à créer. Et en même temps, ça a été fantastique parce qu'il a fallu créer les protocoles. Donc ça m'a appris beaucoup. Je me suis dit, c'est bien, je fais enfin quelque chose où je suis un peu maître de moi-même, je crée les choses à ma façon, je me fixe moi-même mes objectifs, j'avance à mon rythme. Voilà, j'ai toujours reproché un peu au système hôpital de ne pas avancer super vite, et quand tu as des demandes ou des améliorations à faire, ça passe toujours par X personnes, ça prend un temps fou.
C'est vrai, là la voie était plus que libre pour créer, imaginer le poste, et puis finalement ça rassemblait aussi les qualités que tu avais pu découvrir avec tes anciens métiers. Enfin, par exemple, le métier de secrétaire médicale, j'imagine que pour une création de poste comme ça, tu étais presque le profil parfait.
Bah, en tout cas, je me suis bien retrouvée dans le profil proposé, ça c'est certain. Donc j'ai foncé dans la brèche. Et puis voilà, quelques temps ont passé. Et, j'ai eu quand même des petites difficultés, il faut le dire, par rapport au fait que je sois moi-même maman tout juste et que je rencontrais des femmes qui étaient en demande d'IVG. Des fois, ça a été compliqué pour moi aussi. Des situations sociales qui ont été extrêmement compliquées aussi.
T'avais l'impression que tu te projetais à travers les récits que tu entendais ou que tu...
De temps en temps, oui. Et puis, je dirais que comme mon bureau était assez ouvert et au milieu du service, eh bien, j'accueillais beaucoup de personnes, des fois, qui ne m'étaient pas destinées. Notamment des dames qui venaient pour des interruptions médicales de grossesse, qui atterrissaient chez moi. Et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes situations. Et je me suis retrouvée confrontée avec des questions où j'avais pas de réponse, et où j'étais prise psychologiquement dans un étau, où des fois, tu as des questions où de toute façon, il n'y a pas de réponse à cette question. J'ai une dame un jour qui m'a dit, elle devait programmer une interruption médicale, donc le fœtus, à ce moment-là, on avait détecté une malformation qui ne lui permettrait pas de vivre après la naissance. Et donc, on programme ça, et la dame me dit, depuis qu'on m'a annoncé que je devais faire cette IMG, je sens mon bébé bouger, est-ce que vous pensez qu'elle lutte pour sa vie ?
Ah là là.
Et du coup, moi, ça m'a... Forcément, j'ai eu des situations comme ça, qui m'ont prise aux tripes, où j'étais pas armée pour, parce qu'à l'école, on t'apprend rien de ce côté psy. Il n'y a rien à répondre à sa détresse, et du coup, tu te retrouves des fois dans des situations.
Est-ce qu'elle cherche une validation ? Est-ce qu'elle cherche un conseil ? Est-ce qu'elle cherche une écoute ? C'est très dur. Et puis toi, tu es au milieu de tout ça, et du coup, tu dois gérer tous les rôles ? Alors que tu n'es pas forcément formée pour tous les rôles.
Il y a eu des défauts liés au poste qui des fois. Par exemple, donc là, il y avait les dames qui venaient pour les suivis maternité, d'autres pour les suivis gynéco, et la salle d'attente était commune avec les dames qui venaient pour les IVG. Oh. Donc, quand elles arrivaient à l'accueil, qu'elles disaient « moi, je viens pour un IVG !» Voilà, elles disaient tout bas. Et à côté, la dame était enceinte, ou la dame venait pour de la PMA, et du coup, il y avait des fois où il y avait des situations inextricables, parce que... il y a eu des conflits énormes, c'est-à-dire qu'entre une dame qui fait de la PMA pour avoir un enfant, l'autre qui arrive parce qu'elle veut faire une IVG, la troisième qui est enceinte, il y a des fois ça a été folklorique quand même, faut le dire.
Et puis historiquement en France, on a toujours fait des parcours communs pour tous ces suivis, c'est horrible.
Ça je comprends pas, mais...
Oui, moi non plus, enfin, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui comprend. Mais... Et du coup, vous avez tenté de...
Oui, j'ai essayé après d'avoir une petite salle d'attente qui ne soit pas commune justement aux autres profils de dames.
Ouais, au moins ça, quoi.
Ouais. Donc ça a pu se faire. Donc le temps passe, je m'y trouve bien, et puis on décide de déménager.
Ok.
Donc nous voilà partis, je me dis je garde mon poste, je vais en aller pour 1h30 de route le matin, 1h30 le soir, bébé dans la voiture, la crèche hospitalière. Et ça n'a pas duré longtemps, je t'avoue, parce que... entre le bébé dans la voiture, qui était... Voilà, c'était difficilement gérable sur autant de temps dans la voiture.
C'est trop dur, ouais.
J'arrivais systématiquement en retard, je pleurais. Enfin bon, ça commençait à être très compliqué. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je change. Mais j'étais pas prête à retourner dans les services. Ça y est, mon esprit était parti. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un poste autour de chez moi et mon mari a travaillé pour le siège d'une marque de grande distribution. On dit rien.
Que nous ne citerons pas, mais voilà.
Voilà. Et il me dit, il y a des postes d'infirmière de santé au travail à pourvoir. Et alors là, je sais pas si c'est un gouffre qui a traversé mon esprit. Hein. J'ai dit, non mais attends, je vais pas faire d'un pipi, hein, c'est bon quoi. J'ai dit non.
Ah, c'est vrai, c'est la première chose qui te...
Ah ouais, je dis non. Je dis, c'est pas pour moi ça, franchement.
C'est rigolo.
Je vais rien faire de mes journées, c'est chiant. Enfin vraiment, j'avais tous les clichés en tête de l'infirmière de santé au travail. Et je me suis dit, non, ça va être que du secrétariat, je vais m'ennuyer. Puis moi, dans ma tête, c'était vraiment d'un pipi, quoi.
Ouais, mais tu vois, on va profiter de l'épisode pour démonter tous ces clichés-là. Donc, c'est très bien de nous dire ce que toi aussi, t'as pu ressentir. Non, mais c'est bien de savoir ce que toi aussi, t'as ressenti quand on t'a évoqué ce poste pour la première fois, quoi.
Et donc, j'ai postulé en me disant, bon, à défaut d'autre chose, ce sera ça. Hein, voilà, mm-hmm. C'était vraiment pas par envie. Hein. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été prise. L'été est passé et en septembre, je suis arrivée pour faire mon premier jour. Et là, la toubib, une des toubibs avec qui on bossait là-bas, m'a dit, mais Marie, mais pourquoi la santé au travail ?
Ah, ah ben écoutez, c'est une excellente question.
Et là, je lui ai dit, écoutez, je vais pas vous mentir, les horaires, le confort de vie familiale.
Bon, et puis il n'y a pas de honte, hein, franchement.
Je dis franchement, je suis un moustique qui a vu de la lumière, là.
Bah écoute, c'est très bien. Et je trouve que c'est très honnête d'être au clair avec soi-même à ce moment-là et de dire... Le poste sur le papier me convenait très bien. Bon, et puis la vie va te prouver que finalement la décision était la bonne, mais...
Mais c'est incroyable parce que vraiment, je me dis des fois, il y a des coups de chance comme ça.
Ouais.
Et donc, je découvre le travail en lui-même dans cette très grosse entreprise.
Combien de salariés ? Enfin, c'est un très
grand... Sur le siège, 4200 à peu près.
Ah oui, c'est énorme, ok.
Séparé en plusieurs sous-entités, donc on était 4 infirmières temps plein. On gérait du coup la partie santé au travail et la gestion des urgences sur site.
Ok.
C'est-à-dire qu'après, tu te déplaces quand il y a un malaise, un accident. Donc, tu te déplaces en fait sur tout le site pour donner les premiers soins.
Ok.
Et pour alerter les urgences et organiser du coup la sortie
du
salarié, le transfert
okay.
Vers milieu hospitalier si nécessaire.
D'accord.
Donc très régulièrement au téléphone avec les urgences.
Et ces accidents, ça représente... c'est une grosse partie du travail, je ne me rends pas compte.
Il y en a tous les jours.
Il y en a tous les jours déjà, ouais. Okay.
4200 personnes, c'est une petite ville, quoi.
Ah, oh, c'est sûr.
Et on a les collaborateurs donc sur place, et puis on a aussi des visiteurs, donc des gens qui viennent pour des rendez-vous professionnels et qui ne font que passer, mais à qui il est susceptible d'arriver quelque chose, donc on s'est fait quelques frayeurs.
J'imagine.
Ouais. Et donc, suite à ces petites frayeurs, d'ailleurs, tu vois, je me suis dit, mais c'est pas possible, moi j'ai toujours bossé avec un médecin à côté de moi, qui me donnait les directives, qui me disait, on prépare ça, on passe ça, ta, ta, ta. Et c'était rythmé, et il y avait quelqu'un qui était le chef d'orchestre de la situation d'urgence, et c'était pas moi en général. Toi, t'es quand même assez exécutant dans ces moments-là.
Ouais, oui, c'est vrai.
Et là, un peu panique à bord, parce que je me suis retrouvée face à des situations... où je me disais, en fait, t'es responsable de la personne, de son orientation, les décisions que tu vas prendre vont influencer la suite.
Oui,
c'est
très lourd à porter.
Et je me suis sentie un peu mal, du coup, je suis retournée me former, j'ai fait un DU en gestion des urgences avec l'hôpital de Garches,
okay.
Pour me permettre, en fait, d'arriver à faire des protocoles, parce que les protocoles n'existaient pas dans cette entreprise. Arriver à protocoliser les situations, que tout le monde agisse de la même façon, harmoniser les pratiques, et puis donner les meilleures chances, surtout à la personne, d'être bien orientée.
Mmh. Ça implique aussi que toi, tu formes des personnes aux gestes de premier secours ?
Non.
Non.
Alors après, l'infirmière de santé au travail, elle peut être formateur pour ce qu'on appelle les SST, les sauveteurs secouristes du travail.
Ok.
Il y a une formation pour devenir formateur. Moi, j'ai jamais passé cette formation.
D'accord.
Mais il y a des formations en interne sur les grosses entreprises où on forme des personnes, un certain nombre de personnes par étage, par... pour qu'il y ait toujours une personne proche qui puisse, elle, commencer à donner les premiers soins.
D'accord. Donc toi, ce DU, il te concerne toi et
oui.
Il te permet de te donner des clés pour, comme tu dis, protocoliser pour que dans ces situations à risque ou ces problèmes, que les choses s'harmonisent un petit peu mieux et qu'il y ait moins de perte de temps et moins de problèmes, c'est ça?
Oui, puis ça t'aide beaucoup dans la prise de décision, c'est-à-dire que tu vas moins tergiverser à te dire est-ce que ça peut être ça, est-ce que je dois faire ça et... Parce que bon, on n'a pas vocation à faire des diagnostics médicaux, mais on est là pour les orienter en fonction de ce qu'on cherche et de ce qu'on trouve. Donc, il faut optimiser en fait ta prise en charge et te dire quand j'appelle les urgences, c'est pas juste dire « Ah, j'ai une dame, là, elle va pas bien
!» Et oui, oui, c'est arrivé que le problème, la solution, la suite, l'avenir...
Ouais. Donc vous avez fait quoi?
Oui, c'est sûr.
Donc t'es obligé quand même d'avoir un protocole qui te permette de dire « Ok, il y avait tel signe, du coup j'ai fait telle chose, et du coup je suis capable de vous amener telle notion par rapport... Voilà, est-ce que t'as fait un ECG, est-ce que t'as fait une bandelette urinaire, est-ce que t'as pu... Voilà, y a apporté quand même des éléments qui puissent permettre aux urgences de dire « Ok, on vient la chercher, plus ou moins rapidement, enfin... »
Et dans ta tête, c'est un peu sous forme d'algorithme, un peu en arborescence, le patient est conscient, oui, non, il respire, oui, non...
Ouais, alors ça, ça l'est depuis longtemps, parce que ouais. Finalement, tu l'apprends... Alors, je dirais pas à l'école, mais tu l'apprends après sur le terrain. Hein,
Oui, complètement.
Ça, c'est des réflexes que t'as quand même assez rapidement, le conscience, respiration... Mais du coup, non, là, c'est plus... comment dire? En fait, ça nous a permis, nous, d'écrire les protocoles avec mes collègues, de les faire de façon efficace, de façon à ce que tout le monde les comprenne, en fait. Hein, que l'arbre décisionnel soit vraiment tracé. Et que quand on a un doute, on puisse aussi s'y référer et dire « Ok, je sais ce que j'ai à faire, je ne me laisse pas dépasser par mes propres peurs, par... Des fois, tu as l'impression d'être un peu... pas un arnaqueur, mais... tu te retrouves avec une personne et tu te dis, mais... où sont mes compétences, en fait? Au secours, quoi.
Et dans ta tête, c'est la panique et tu ne dois rien montrer.
C'est exactement
c'est dur aussi, ça.
Ouais, vous avez peur? Non.
Non, pas du tout. Je suis extrêmement sereine dans toute situation d'urgence.
Pas du tout, je suis infirmière.
Vous savez qui je suis?
C'est horrible.
Ouais, c'est très dur.
Non, c'est très dur. Faut vraiment pas paniquer. Il faut arriver à prendre les bonnes décisions. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et donc, pour en revenir à la santé au travail, parce que je te fais un truc un peu décousu, hein, sinon c'est...
Non, c'est très très bien. Non, ne t'en fais pas.
Du coup, en arrivant dans cette entreprise, j'y connaissais rien. J'ai été quand même formée par mes collègues et par les médecins avec lesquels on travaillait. Et la formation de santé au travail, elle doit être financée par l'entreprise où tu es dans l'année qui suit ton embauche.
D'accord, donc tu peux être embauchée sans... Et ensuite, oui. L'entreprise s'engage dans l'année qui suit à faire ce qu'il faut.
À t'y inscrire. Oui, tout à fait. Okay.
Et te la finance également, j'imagine.
Ah oui, bien sûr. Si, c'est obligatoire. Surtout, t'en as à peu près pour... bon, ça dépend où tu le fais, mais à peu près 6 000 euros.
Ah oui, quand même.
Donc, ça coûte quand même un peu de sous.
Et carrément.
Donc, j'ai passé la période d'essai. Et puis du coup, ils m'ont inscrit pour faire cette formation. Donc ça a été sur une année scolaire, hein, c'est de septembre à juillet, quelque chose comme ça. Et t'as plusieurs jours regroupés en fait chaque mois que tu passes à l'école. Et donc là en fait ça va te permettre d'éclaircir un peu finalement tout ce que tu fais sur le terrain sans des fois comprendre pourquoi tu le fais. Je m'explique, des fois les médecins vont te demander des choses et puis pour toi c'est pas très clair. De te dire ça rentre dans mon champ de compétences, ça y rentre pas, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, et il faut arriver à comprendre le système entreprise parce que tu sors du système hôpital. Et donc il faut arriver à communiquer avec tous les partenaires d'une entreprise, que ce soit les RH, que ce soit les salariés, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que toi, ni la même compréhension des situations, puisque toi tu vas les voir d'un point de vue de la santé du salarié. Tu vas toujours mettre en parallèle la santé du salarié et son poste de travail pour que l'un et l'autre n'aient pas d'influence négative, en fait. Hein. Toi, tu vas agir vraiment sur de la prévention. Et ça aussi, c'est quelque chose en tant qu'infirmière qu'il faut apprendre à faire parce qu'on est très dans l'immédiateté, en fait. Quand tu fais un soin ou quand tu donnes un antalgique, tu te dis « Ok, je l'ai donné, j'ai donné action-résultat, quoi. Je donne,
curatif, il se passe
quelque chose d'assez immédiat, la personne est soulagée, oui, non. » Là, tu peux pas attendre d'avoir des résultats de façon très immédiate. C'est quelque chose qui se fait vraiment sur la durée. Donc, il faut avoir un petit peu de patience aussi, avoir un peu de projection. Et je sais plus où j'en étais.
Moi, je voulais savoir si c'était frustrant, dans un certain sens, de du coup, d'appliquer... de mettre en place plein de choses et de justement, avec le réflexe qu'on peut avoir en tant qu'infirmière, de se dire, bah, moi je veux des résultats tout de suite, parce qu'on est beaucoup dans le curatif.
Des fois, tu essayes d'avoir des résultats tout de suite et ça te rend un peu impatient. Et quand tu vois que tu les as pas, voire que tu ne les auras jamais, parce qu'il y a vraiment des préventions où ça se joue sur des années. Et des fois, il y a des refondements à faire au sein même de l'entreprise. Et du coup, il faut être assez convaincant pour arriver à faire changer des systèmes qui sont en place. Et très, très compliqué. Nous, pour faire évacuer les gens de cette entreprise, en fait, ils avaient décidé que pour ne pas déranger les collaborateurs, il y aurait des chemins, on va dire, de traverse dans l'entreprise pour ne pas déranger les gens sur les plateaux qui sont en train de travailler en open space. Sauf que ça rallongeait considérablement les trajets.
Ah oui.
Et donc un jour, on a été confronté à une personne qui présentait des signes d'AVC et où on s'est dit, non là, il faut que ça aille vite. Et on a demandé à faire ouvrir en fait en urgence pour que le SAMU puisse venir le plus rapidement possible. Et on s'est retrouvé avec un refus en disant, ben non, on va pas déranger tout le monde, on va pas les faire passer. Et là, ça a été l'incompréhension totale. Où du coup, l'urgentiste, heureusement, après coup, a téléphoné à l'entreprise en disant « Vous êtes fou ».
Ok.
Donc ça nous a beaucoup aidé. C'était une situation pas confortable pour nous parce qu'on s'est dit « Il faut que ça aille vite » et visiblement, ça ne va pas aller vite du tout. Et heureusement, l'urgentiste, quand il a compris qu'on lui faisait faire 400 détours dans la boîte avant d'arriver à la personne, lui dit ce qui n'allait pas, et du coup ça a permis aussi de faire évoluer des choses. Donc ça peut être les entreprises, ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi, quoi. Ils n'ont pas la notion d'urgence, il n'y a pas de...
Ouais, c'est sûr.
Puis souvent tu es là parce qu'il y a une obligation légale à ce que tu sois là, pas plus.
Ouais, exactement.
Il y a un quota d'infirmières de santé au travail par rapport à l'entreprise. Là dans les structures où j'étais, c'était une pour 1000 salariés. Sachant que pour des entreprises qui relèvent plus de des usines, je crois que c'est une pour 500.
Parce qu'il y a statistiquement plus de problèmes au quotidien, de blessures ou autre. Ok. Donc heureusement qu'il a eu la clairvoyance de se dire avec le recul, je vais quand même décrocher mon téléphone et leur dire que ce que j'ai vécu aujourd'hui ne me convenait pas et est vraiment clairement délétère pour le patient.
Oui, mais donc il y a plein de choses comme ça. Ou vraiment, tu n'as pas les mêmes objectifs en fait, que la boîte où tu travailles, surtout c'est une entreprise qui n'est pas orientée sur la santé ou quoi que ce soit.
Exactement. Et sur les différents domaines de prévention sur lesquels toi et tes collègues agissaient, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Je pense qu'on n'imagine pas tous les domaines.
Il y a énormément de choses. Alors, on a fait vraiment des actions de prévention ciblées, donc par exemple la prévention des cancers de la peau. Avec la Ligue contre le cancer, on faisait des stands de prévention. C'est beaucoup d'informations, mais on a fait des partenariats en fait pour distribuer de la crème solaire, des chapeaux de paille pour rendre le truc un peu plus ludique.
Ah, génial.
Des bracelets, un réflecteur d'UV. Donc en fait, ça te permet, ça change de couleur quand ton exposition est trop importante, quand il y a trop d'UV, ça te permet d'avoir un rappel pour te dire on remet de la crème. Mmh. On avait un dermatologue qui venait du coup faire du dépistage sur le stand, donc les gens pouvaient venir montrer les grains de beauté, ce genre de choses, et ça nous permet de donner des conseils quand même très orientés. Donc on l'a fait pour ça, pour la prévention sur le tabac, on l'a fait sur le cancer du sein, enfin vraiment c'est toutes les thématiques de santé publique en fait. La santé au travail, on pense que c'est restreint parce qu'on s'occupe principalement des postes de travail, des risques qui y sont associés et de ce qu'on peut mettre en place pour éviter au maximum les risques et les complications de ces risques à long terme. Mais on a un rôle sur la santé publique qui au départ est un peu méconnu, sauf que l'un mange un peu sur l'autre, toujours. On a quand même des besoins de santé qui sont en forte augmentation en France et on a une démographie médicale qui est vraiment en berne. Et on a des salariés, la seule personne qu'ils vont voir, c'est l'infirmière de santé au travail, c'est le médecin. On a un rôle aussi de prévention, d'orientation. Des fois, on outrepasse un petit peu notre rôle parce qu'on se retrouve dans des situations où on ne peut pas laisser la personne telle qu'elle est.
Oui. Oui, je vois complètement. Et comme tu dis, s'il y a des gens qui ne consultent jamais un médecin parce que peut-être ils n'ont pas de soucis de santé, deuxièmement parce que ne font pas l'effort d'aller voir un médecin parce que là, les données démographiques, comme tu le disais, sont compliquées, au moins vous êtes un référent pour ces personnes-là.
Mais des fois, on est la seule occasion.
C'est ça. Ouais. Et du coup, il faut être capable d'agir sur, j'imagine, beaucoup de domaines. Voilà, le petit, comme tu dis, le grain de beauté qui dégénère, l'état dépressif ou tout ce qui se présente face à vous. J'ai vu une de tes stories la dernière fois sur ton compte Instagram. On en parlera à la fin de l'épisode pour les personnes qui veulent aller te suivre. Nurse and Diet. Tu avais fait une sorte
d'ailleurs, j'ai changé le nom, c'est pas bien, mais...
Ah non, c'est vrai. Ah oui, en plus, j'ai dit une bêtise. Alors, on va refaire un point. Ouais, on va refaire un point et on remettra tout dans la barre d'infos, mais pour que les gens aillent te suivre. Mais tu avais écrit les termes un peu sous une forme de liste et tu vas me dire si ça représente bien le résumé d'une journée classique, même si j'imagine qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Tu avais écrit arrêt de travail, vaccin, consultation, prise de sang, réunion et études de poste. Est-ce que c'est un bon... Une bonne photographie,
Ça ressemble un peu à ça. Alors après, chaque infirmière de santé au travail, selon l'entreprise dans laquelle elle travaille, va avoir des missions qui vont être précises. Moi, je travaille en intra-hospitalier maintenant, donc en fait, je m'occupe de la santé de mes collègues infirmières.
D'accord.
Aides-soignantes, médecins, kinés, voilà, tous les gens qui travaillent dans mon hôpital. Donc c'est un poste un peu particulier. Mais du coup je m'occupe de mes collègues, donc oui, effectivement, on a plusieurs missions. Alors moi, il y a eu des choses que j'ai mises en place en fait à ma prise de poste, des choses qui me semblaient pas pratiques auparavant, qui m'ont semblé bonnes de mettre en place. Typiquement, on prescrit nous des bilans sanguins à l'embauche, notamment des tests comme le cantiféron qui va tester la tuberculose, l'hépatite B puisque c'est une vaccination obligatoire chez les soignants. Et donc, on va prescrire les sérologies à l'embauche, des fois une radio pulmonaire, des fois... Et donc, ben, moi, en général, je commence mes journées par faire les bilans. J'ai décidé de mettre un poste à prélèvement dans mon bureau parce que j'avais la chance d'avoir 3 pièces et de pouvoir dédier une pièce, en fait, pour faire les bilans sur place parce que je me rendais bien compte que quand les gens partaient avec la prescription, des fois...
Ils n'allaient jamais au laboratoire. Des
fois, c'était pas fait. Donc, piégé pour piégé, je les garde.
C'est très bien.
Donc, souvent, je commence par ça, mes journées. C'est vrai qu'après, on fait, nous, j'allais dire de la consultation. On appelle ça des entretiens infirmiers, donc sur délégation du médecin du travail et sur protocole, selon ce que le médecin veut bien nous déléguer, puisque c'est vraiment une délégation de ses missions. On va faire des entretiens infirmiers. Donc, c'est dans le prolongement, en fait, de la consultation du médecin du travail. On va nous questionner l'état de santé du salarié, questionner sa fiche de poste. Alors on parle de travail réel, parce que souvent on a une fiche de poste qui est donnée par les RH et puis on se rend bien compte que les gens, ben, entre la fiche de poste écrite et la fiche de poste qui correspond au travail réel, il y a un delta incroyable. Donc ça nous permet de mieux cibler en fait les risques qui sont associés à son poste de travail. Des fois on se dit il n'y a pas de risque, mais en fait je crois que le pire poste c'est celui devant ton écran. Hein.
C'est vrai. Ouais.
De plus en plus, on voit des maladies un peu émergentes, des maladies professionnelles, ce genre de choses. Donc notre but, c'est vraiment de mettre toujours en balance l'état de santé et le poste occupé. Donc des fois, on peut demander des aménagements. Des fois, ils sont le poste est aménageable. Des fois, il ne l'est pas. Voilà, tu dis à une infirmière, il faut qu'elle soit, je dis une bêtise, hein, assise toute la journée. Bah, tu vois bien que ça ne tient pas. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. On veille aussi, maintenant depuis mars, il y a des nouvelles visites qui sont venues s'imbriquer dans le suivi, donc ça s'appelle des visites de mi-carrière. Ça n'existait pas auparavant, mais ça va nous permettre dans la 45e année d'âge du salarié de voir s'il est capable sur le poste où il est, en gros, hein, je la fais courte, d'aller jusqu'à la retraite.
D'accord.
Nous, ça a un intérêt tout particulier dans le sens où moi, je m'occupe d'infirmières et d'aides-soignantes. Et on sait que c'est des métiers très physiques, qui occasionnent beaucoup de problèmes de santé. On parle de TMS, les troubles musculo-squelettiques. On a des gens qui ont vraiment des pathologies. Et quand elles ont commencé jeunes, voilà, on sait bien que les problèmes de dos, ça va peut-être les empêcher d'aller au bout. Et on se dit, ben, il y a peut-être un âge limite pour essayer de dire, ben, OK, on fait un point, on fait un bilan sur votre carrière. Comment vous vous projetez ? Est-ce que vous vous sentez capable ? Est-ce qu'il y a déjà des pathologies récurrentes ? Et ça peut permettre des fois de réorienter les gens, en fait, qui ne se retrouvent pas en désinsertion professionnelle, sans moyen d'agir parce qu'ils ont passé l'âge de se reformer, de...
Complètement, ça anticipe quand même tout ça.
De s'interroger sur leur avenir. Ouais, ça anticipe énormément. De toute façon, la santé au travail, c'est de l'anticipation. C'est de la prévention et de l'anticipation. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire ça. Je pense que voilà, c'est une des facettes du métier d'infirmière, mais je pense que clairement, tout le monde ne fera pas ce choix-là parce que c'est très préventif, c'est quelque chose qui n'est pas très reconnu en France, quand même, la prévention. On n'est pas très en avance là-dessus.
Ce qui est un problème, d'ailleurs.
Ouais. C'est un énorme problème parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens où on ne fait pas de prévention, où ils n'ont pas l'information, où on ne dépiste pas. Ils passent vraiment à côté du système médical et des fois par faute de médecins, hein, enfin, ça peut arriver.
Ah oui, oui, oui. C'est pas qu'une question de volonté ou d'information, mais c'est aussi le manque de...
Puis on va le dire, les médecins et les infirmières, personnel. Puisque moi, c'est ça que je les suis principalement, bah, ils se font pas vraiment suivre.
Ah bah, ouais. Les cordonniers les plus mal chaussés, on l'a toujours dit. Hein.
Voilà, voilà.
Ouais, c'est vrai. Et pour les personnes que tu vois, donc je parle pas de celles qui viennent dans leur 45e année, mais pour celles qui viennent pour des entretiens comme ça, orientés par le médecin, ce sont des salariés qui viennent de leur propre chef, de leur propre demande ?
Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment des visites obligatoires légalement.
D'accord.
Donc les visites obligatoires, on en a plusieurs. On a la visite d'embauche, la visite périodique, et puis bon, cette visite de mi-carrière à faire également. Après, on peut rajouter des visites, c'est-à-dire que le médecin peut rajouter à sa demande une visite. Celles-ci ne sont pas du tout obligatoires, mais il lui arrive d'avoir besoin de revoir un salarié, ne serait-ce que pour prendre de ses nouvelles. Donc nous, on n'a pas exactement les mêmes visites que le médecin. En fait, il y a trois types de suivi dans une entreprise. On a SI, SIA, SIR. Donc SI, c'est un suivi individuel simple. En fait, tout dépend du poste de ton travail. Tu vas être catégorisé par ton employeur selon ton poste de travail et les risques qui y sont associés.
D'accord.
Donc, je donne un exemple. Quelqu'un qui ferait de l'administratif serait en suivi individuel simple. Quelqu'un qui serait en suivi individuel adapté, ben, il aurait un petit peu plus de risques. Je pense peut-être à des kinés, par exemple. Et ensuite, on a suivi individuel renforcé. Et là, c'est des risques où vraiment les gens doivent être suivis. En fait, ça va définir aussi la périodicité des visites.
D'accord.
Donc, suivi simple, on les voit à peu près tous les 5 ans. Des suivis renforcés, ce qui est le plus haut niveau de suivi, ça va être à peu près tous les 2 ans. Donc, vraiment, la périodicité n'est pas la même et le suivi n'est pas le même non plus. On ne va pas rechercher du tout les mêmes choses. Une infirmière, bah, elle a un risque d'AES, l'accident d'exposition au sang. Donc, on va rechercher qu'elle est bien immunisée pour l'hépatite B notamment. Voilà, les kinés, ils peuvent avoir des manipulations au niveau pneumo. Donc, on a des choses à vérifier aussi. Enfin, voilà. Donc, chaque professionnel va être suivi de façon personnalisée. Et il va être au départ catégorisé par l'employeur dans ses catégories de suivi.
Est-ce qu'une maladie préexistante pourrait modifier ce suivi ? Je ne sais pas, une infirmière qui a un diabète, un kiné qui a une affection longue durée, quelle qu'elle soit ?
Non.
Non.
Non, non, là, c'est vraiment en rapport avec le poste de travail. Par contre, on va intercaler du coup beaucoup plus de visites pour quelqu'un qui a nécessité d'un suivi. Par exemple, je dis une bêtise, une aide-soignante qui travaillerait de nuit et qui est diabétique, ça peut être une contre-indication au travail de nuit, le fait d'avoir un diabète mal équilibré. Tant qu'il est bien équilibré et que les suivis sont bons, voilà, mais c'est à nous aussi de vérifier que le fait de travailler la nuit et d'avoir ce rythme un peu particulier ne va pas être délétère sur la durée pour sa santé.
Très bien.
Ouais, ouais. Ça peut être le cas d'hypertension aussi, voilà, de gens qui font des crises épileptiques... Voilà. Est-ce que le salarié il travaille de façon isolée, parce qu'on a quand même la nuit des gens qui sont un petit peu plus seuls. Est-ce qu'il a des pathologies qui pourraient le mettre en danger du fait de travailler seul ou quasi seul? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser, mais c'est vraiment toujours très personnalisé par rapport à l'état de santé du salarié au moment où on le voit. Sachant qu'on fait vraiment... le salarié nous donne les informations... mais elles peuvent être incomplètes ou inexactes, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur du déclaratif. Et il y a encore des gens qui pensent qu'il ne faut pas dire à la santé au travail.
Ce qui ne va pas. Ok.
Parce que sinon, on va finir inapte.
Qui reste mystérieux sur ce qui leur arrive en se disant « derrière, ça ne va pas être bon pour moi ».
Bah, il y en a qui ont un petit peu peur, qu'on leur dise « bah non, vous ne pouvez plus travailler de nuit, non, vous êtes inapte ». Donc nous, on n'a pas ce pouvoir, en quelque sorte. Il n'y a que le médecin qui peut mettre des inaptitudes, et en général, elles sont mûrement réfléchies.
Ouais, j'imagine.
Il y a beaucoup d'échanges avec le salarié, on essaye de trouver déjà des adaptations et des moyens d'action pour modifier les situations avant de penser que quelqu'un est juste inapte.
Exactement. Pour les entretiens de milieu de carrière, est-ce que tu es parfois face à des personnes qui sont, je ne sais pas comment formuler ça, mais un peu dans le déni ? Enfin, moi, je me suis entendue dire en tant qu'infirmière, ouais, j'ai mal au dos, mais bon, après tout, c'est normal. Ou tu vois des gens où tu creuses un peu et tu leur dis, non, mais c'est pas... Alors, c'est normal, anormal, le mot n'est pas le bon, mais on va peut-être faire quelque chose pour améliorer votre poste de travail, pour vous trouver quelque chose d'autre ?
Ben, souvent, de toute façon... Tu vas pas brut de décoffrage, c'est-à-dire que tu vas commencer à évoquer peut-être un peu les problèmes que la personne rencontre dans son travail au quotidien, les douleurs, voilà, essayer d'en savoir un petit peu plus sur la gêne aussi qu'elle ressent, sur comment elle se projette elle-même avec ses douleurs, avec certaines pathologies dans l'avenir, parce que peut-être que d'elle-même, elle va se questionner sur quelque chose sur lequel elle s'était jamais questionnée.
C'est vrai, ouais.
Peut-être elle l'a pris ça comme une habitude, et le fait que quelqu'un lui dise « mais comment vous vous projetez ?» en disant « ah bah pas comme ça ».
Ouais.
Ah, et donc là, il y a un questionnement aussi. Des fois, ça se fait pas en une fois, c'est-à-dire qu'on va tendre une perche, et puis la personne va y réfléchir, et peut-être revenir vers nous. Mais on va au moins ouvrir une porte, et puis se dire que peut-être la main tendue ou la phrase prononcée va faire écho à un moment donné, et que si elle en a besoin, en tout cas, elle saura revenir. Mmh. Le but, c'est vraiment de garder des portes ouvertes pour que les gens sachent revenir, chercher de l'aide au bon moment. Et pas qu'ils se disent, bah non, ça la concerne pas, ou on peut rien pour moi, ou voilà.
L'objectif, comment on fait ça ?
C'est que ça se passe toujours bien. Mm-hmm.
Comment on fait ça ? On laisse une carte de visite avec un numéro, on rappelle.
Moi, j'ai fait des cartes de visite, oui, avec numéro, mail, tout ça. Je ne sais pas si ça se fait comme ça partout, probablement pas, mais dans l'hôpital où je suis, qui est un hôpital un petit peu familial, moi j'ai pris l'habitude de tutoyer les gens avec qui je fais les entretiens. Ce sont avant tout des collègues à moi. Mmh. Et ça permet de rentrer un petit peu plus des fois dans la confidence, voilà. Donc je sais que les gens se confient beaucoup à moi. Y a une relation de confiance forcément qui s'instaure, là ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'y suis. Les gens nous connaissent, et puis des fois on a réglé un problème pour un tel, et puis le collègue en a entendu parler, voilà. Et puis je mets un point d'honneur à finalement jamais être négative avec eux, c'est-à-dire que quelqu'un qui rate son rendez-vous, quelqu'un qui ne vient jamais, qui met des petits lapins comme ça de façon systématique, bah, le jour où il va rappeler...
C'est une victoire.
Oui, et puis je vais pas lui dire...
Ah bah enfin,
t'es pas venu, ou t'exagères, ouais. Tu nous as mis un lapin, c'est pas bien. Mmh. Non, c'est au contraire, je vais valoriser le fait qu'il m'ait appelé. Et parce que si d'emblée on est dans l'opposition, c'est des gens finalement qui vont pas venir.
Qui vont se braquer.
Et c'est pas du tout notre objectif. Donc voilà, donc quand quelqu'un rate, pas de souci, aucun problème, on refixe un rendez-vous. Faut rester quand même assez... ouvert, et puis jamais le prendre pour soi, en fait. Voilà.
Oui.
Après tout, ils se sont pas dit, tiens, aujourd'hui, je vais lui casser les pieds, je vais pas y aller.
Oui, et puis pour l'avoir vécu, il y a aussi des moments où tu es dans une journée au travail qui est compliquée, et puis on vient te voir et on te dit, la médecine du travail t'attend, et tu te dis, mais là, je n'ai absolument pas le temps. Enfin, le rendez-vous tombe parfois pas du tout
au bon moment. Mais les filles m'appellent, des fois, en me disant, bon mari, là, je suis dans le jus, j'ai pas déjeuné, il est 15h, est-ce qu'on peut reporter ? Oui, aucun problème.
Ouais.
Il faut même pas se formaliser parce que les gens sont dans leur journée de travail.
C'est ça.
Des fois, ça vient pas s'imbriquer de la bonne façon, surtout dans les soins. Et il faut faire preuve vraiment de souplesse. Mais ça marche très bien. Enfin, les gens en plus sont assez rigolos. Bon, ils appellent. Des fois, j'appelle et puis quand ils m'entendent décrocher et qu'ils avaient rendez-vous, j'entends. Oh
mince alors.
Une espèce de cri de. J'ai oublié. Donc c'est plutôt drôle.
Que ça soit dans quand tu exerces en entreprise ou maintenant que tu exerces dans le milieu hospitalier, de quoi est-ce que tu manques au quotidien pour exercer cette profession comme tu souhaiterais l'exercer ?
Ben, je pense qu'on manque de reconnaissance, mais ça c'est dans l'intégralité du métier infirmière. Hein. Voilà, on nous confie toujours plus de choses. Là, autrefois, il n'y avait que des médecins de santé au travail. On appelait ça la médecine du travail. Depuis qu'il y a les infirmières, on appelle ça la santé au travail. on évolue petit à petit. Mais je dirais qu'on manque beaucoup de reconnaissance. On nous confie de plus en plus de choses, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins, donc on se dit « Ah, ben, les infirmiers, ça fera l'affaire hein. ». Pendant un temps, on se disait « Ben non, ils n'y arriveront pas », puis finalement, on se retrouve avec des compétences qui nous atterrissent dessus presque avant même d'être formés. Donc ça, c'est toujours un peu délicat. Donc je pense que la reconnaissance de ce côté-là, encore qu'en santé au travail, ça a quand même beaucoup évolué, puisque la rareté finalement du nombre de personnes formées fait qu'on arrive quand même d'un point de vue rémunération à s'en sortir quand même très bien. Là, le DU, il a quand même pas mal d'années, mais par contre, l'autorisation de faire des entretiens sur délégation du médecin du travail, c'est assez récent. Et les nouveaux DU, en fait, nous forment à ça, en fait, aux entretiens infirmiers, ce qui n'était pas le cas les DU autrefois.
D'accord.
Donc, le métier est amené à évoluer. Ils recherchent beaucoup, les entreprises recherchent énormément, parce que déjà, former quelqu'un, 6 000 euros pour qu'il soit pas là une semaine par mois pendant un an, c'est compliqué. Donc, ils cherchent des personnes formées, et l'obligation de formation, elle date de 2017, il me semble. Donc, c'est super récent. Donc, moi, j'ai été dans les premiers obligés à la formation. Donc maintenant, bah, pour rentrer en entreprise, c'est très compliqué, c'est très fermé, parce qu'ils savent qu'ils ont cette obligation. Du coup, des fois, ils préfèrent prendre quelqu'un qui est déjà formé.
Ouais.
Et l'accès, du coup, à ce type de poste est assez restreint. Donc la reconnaissance, bah, bien sûr, ça passe par le salaire. Après, ça passe aussi par toutes les actions qu'on mène. Alors, dans l'entreprise où j'étais, qui était cotée au CAC 40, j'ai envie de te dire, tout le monde s'en fout. De ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu fais pas aussi. C'est une obligation légale d'avoir les infirmières, on les a, point barre.
Ah oui, voilà, on voit pas plus loin que ça.
Non, pas du tout. Ils voyaient pas du tout le bien fondé. Limite, on leur coûtait de l'argent, mais bon, bah...
Ah oui, super.
Bah, oui, voilà, chacun voit les choses comme il l'entend. Et du coup, là, en intra-hospitalier, ça a beaucoup changé les choses pour moi, parce que je dépends de la DRH, qui est une ancienne infirmière. Et ça m'a énormément aidée. Et on m'a inclus dans toutes les réunions de prise de décision pour l'hôpital, pour l'organisation, pour les salariés. Et donc, je dois être la seule avec l'infirmière hygiéniste, je pense, à être admise au club de la sélection. C'est assez rare, en fait, hein, je pense.
Et
là, le fait qu'on nous demande notre avis, qu'on se serve quand même de notre expertise de terrain, et c'est hyper appréciable. Et ça s'est beaucoup révélé pendant la période Covid, énormément, parce qu'on a été vraiment invités à toutes les réunions de crise.
Ah, super.
On a été écoutés, on a été... vraiment, ça a été... Donc la reconnaissance, elle vient tout doucement, mais puis après...
Il y a encore du boulot.
Ouais. Mais pour travailler au quotidien, moi, je dirais que j'ai besoin de rien. Là, je travaille toute seule, pour le coup. Je suis toute seule à mon poste, donc j'organise mes journées comme je l'entends, selon les besoins. Je peux réorganiser ma journée. Je fais mes plannings. Je décide de quand je fais mes entretiens infirmiers.
Le médecin est à temps plein avec toi ?
Non, il est à mi-temps. Il vient 2 après-midi par semaine.
D'accord.
Et il vient faire ses consultations, donc je planifie ses consultations, je prépare, on discute des dossiers, on fait des staffs sur mes dossiers, les gens que j'ai pu voir, moi, sur sa délégation et qui peuvent poser problème. Puis on discute beaucoup des situations en général. Hein. J'ai la chance d'avoir un médecin qui travaille, lui, on appelle ça en inter-entreprise, ce sont des structures qui... reçoivent des cotisations des entreprises pour gérer les effectifs. Et donc, lui, il fait partie d'un groupe inter-entreprise et il est salarié de mon hôpital à mi-temps.
D'accord.
Et donc, il vient faire ses consultations sur place.
Vous êtes les deux seules personnes à intervenir dans le bureau santé au travail ?
Oui.
Il n'y avait pas de psychologue ou, tu vois, je me demandais s'il y avait d'autres...
Alors, bah, dans l'entreprise où j'étais avant, on avait une psychologue, tout ça. Là, on a embauché. Non, c'est pas embauché, c'est-à-dire qu'on a un contrat avec une psychologue du travail extérieure.
D'accord.
Vers qui on peut orienter les salariés et l'entreprise prend en charge 5 séances individuelles, mais c'est à condition que ça ait attrait au travail. Elle
et
prend
oui,
pas en
sûr.
Charge tout ce qui est perso.
Oui, qu'il y a un souci liées à l'exercice de la profession. Et du coup, elle les reçoit à l'extérieur de l'hôpital. Elle est dans un cabinet extérieur. Ok.
Tout à fait. Okay, okay. On a aussi un préventeur des risques professionnels.
D'accord.
Ce qui est énorme parce que c'est vraiment quelqu'un dont c'est le métier pur.
Je ne savais même pas que ça existait.
Ouais. C'est très particulier comme poste, c'est très complexe parce que c'est quelqu'un qui va tout étudier et qui a des méthodologies que je crois que par elle, personne ne les connaît.
Mais c'est fou,
c'est hyper
est-ce
complexe.
Que il vient voir les gens dans leur poste de travail et il regarde les. Comment.
Alors,
comment il fait
je voudrais pas dire de bêtises sur son métier,
oui,
mais
oui.
Je pense que j'en connais pas toutes les facettes
c'est
encore.
C'est difficile de parler d'un métier.
Trois ans qu'on travaille ensemble.
Ouais, ouais.
J'espère que si elle l'écoute, elle m'en voudra pas, mais ça risque d'être réducteur.
Pas du tout. Non, non, juste pour avoir une idée de ce que tu vois.
Alors, pour avoir des exemples, par exemple, elle va écrire et décrire toutes les tâches à risque. Les solutions apportées, les améliorations, et donc on a un énorme tableau qu'on appelle le document unique, qui est obligatoire pour chaque entreprise, et dans lequel on doit recenser les risques et tout ce qui est mis en place pour la prévention de ces risques.
D'accord.
Donc par exemple, pour être un peu plus concret, on a des produits toxiques, corrosifs, abrasifs, tout ce que tu veux, qui ont des lieux de stockage. Donc elle, par exemple, vérifie les lieux de stockage qui soient stockés de façon réglementaire, qu'il n'y ait pas de mélange de produits de fait, que les étiquetages soient bons, que si jamais quelqu'un se prend une projection dans l'œil, il y a quelque chose d'écrit dans la procédure. Elle fait tout ce qui est fiches de données de sécurité. Donc c'est les fiches qui recensent justement tous les risques associés à ces produits. Donc c'est hyper compliqué, enfin vraiment. Et là, je te dis, je suis très réduite, je pense, dans ce que je vois d'elle. Elle fait les enquêtes d'accidents de travail avec moi.
D'accord.
À chaque fois qu'il y a un accident de travail, on va l'analyser avec la personne qui a eu son accident. Donc moi, je viens avec elle pour les accidents de travail qui sont relatifs aux AES, les accidents d'exposition au sang, puisque elle n'est pas infirmière, donc moi, j'assure un peu plus la partie technique de ce côté-là pour lui expliquer les circonstances. Parce que souvent, elle ne connaît pas les dispositifs qui ont été utilisés, les soins. Donc, je suis là un peu pour faire la traduction de la situation.
Ah, c'est génial, ça.
Et elle s'occupe de la partie analyse. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on fait vraiment tout un travail de fond. Et elle se sert de moi, en fait, par rapport à mon expertise plus infirmière. Là, on a comme projet, par exemple, de faire tout le circuit des cytotoxiques, donc notamment les poches de chimio, à partir du moment où les produits qui vont être reconstitués ensuite par la pharmacie, de l'arrivée jusqu'à la sortie, comment ils sont déplacés, transportés, contrôlés, s'il y a une fuite, voilà. Donc on s'occupe, par exemple, d'écrire le process pour les cytotoxiques, on peut faire. Enfin, il y a plein de sujets. Quand il y a un nouveau service ou un changement de service, on va voir les locaux. On vérifie la hauteur des étagères. Tout ça, c'est un peu normé. C'est-à-dire que des choses lourdes et dont on se sert tous les jours, ben, on ne va pas les mettre à même hauteur, en fait, que quelque chose de plus léger ou des choses dont on ne se sert jamais.
Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
C'est comme chez soi, la couette pour la chambre d'amis et bah, est stockée en haut du placard. Hein,
voilà.
Parce qu'on s'en sert pas tous les jours.
Voilà.
Non, mais alors ça peut paraître être du bon sens, mais pour l'avoir vécu, il y a une quantité de choses, enfin, je trouve même pas un exemple, mais des choses dont on sert régulièrement qui impliquent d'aller par exemple chercher un escabeau.
J'ai vu ta vidéo sur les sacs à main. Les paniers sont tout le temps.
Alors, pour les sacs à main, je plaide coupable, mais je n'en change pas tous les jours. Non, mais quand j'étais infirmière, il y a vraiment des choses dont on se sert régulièrement, pour lesquelles on ne fait pas l'effort de les mettre dans un niveau ergonomique normal. Et pour autant, tant qu'on ne te met pas le doigt dessus, ça te questionne pas, quoi.
Pas du tout.
On prépare des choses sur des coins de table, des coins de paillasse, en se disant, bah, de toute façon, c'est comme ça. J'ai des souvenirs d'aide-soignante qui me disait, prends le temps de mettre le lit de ton patient à ta hauteur. Je ne parle pas en situation d'urgence, hein, mais vraiment, par exemple, pour faire une toilette au lit, qui va durer plusieurs dizaines de minutes, il faut prendre le temps, ça prend 10 secondes, de mettre le patient à son niveau. C'est un détail.
Autant te dire
hein.
que j'étais nulle en ergonomie en plus, moi.
En plus, elle était mauvaise élève.
C'était une catastrophe. Mais tant que t'as pas mal, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai.
Les gens répondent ça souvent. Tant qu'il n'y a pas de douleur, tant qu'il n'y a pas de gêne, ben, bon, c'est vrai que les adaptations, tu ne les fais pas. Et c'est là où le rôle, en fait, est très important auprès des salariés, parce que la prévention, ben, ça passe aussi par là. C'est avant les douleurs.
Moi, j'ai le souvenir d'écrire sur une table pas à la bonne hauteur, avec un tabouret qui n'est pas réglable en hauteur non plus. Et un jour, il y a un médecin qui a dit « mais faut demander une chaise adaptée ». Et en fait, on aurait pu le faire. Hein. Et d'ailleurs, la chaise est arrivée quelques jours après. Il suffisait que quelqu'un décroche le téléphone et appelle le service technique en disant « est-ce qu'on peut avoir une chaise réglable en hauteur ?» Deux jours après, on l'avait. Mais encore, fallait-il y penser. On se satisfait facilement de choses un peu médiocres. Je ne sais pas comment dire, mais...
Puis des fois, tu n'y passes pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu dis « oui, mais c'est quelques minutes ».
C'est ça.
Sauf que c'est tous les jours. Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Ça, les gens s'en rendent pas compte du tout, alors qu'il peut y avoir des adaptations à faire qui sont des fois assez simples. Mm-hmm. Nous, on va faire souvent des études de poste. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, il y avait quand même des métiers que je ne connaissais pas, notamment les postes en blanchisserie, par exemple, où ben, moi, en tant qu'infirmière, ben, mes blouses partaient à la blanchisserie, revenaient, c'était formidable, sauf que l'envers du décor, je ne le connaissais pas.
C'est vrai.
Et donc, quand on m'a dit bah, « tu vas devoir les suivre », pour moi, ça m'a paru évident qu'il fallait que j'aille voir déjà comment ils travaillent. Mmh. Et donc, j'ai été faire une étude de poste, c'est-à-dire j'ai été voir leur façon de travailler, leur façon de bouger, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme matériel, à quel rythme, est-ce qu'il y avait des mouvements répétitifs, vraiment des contraintes. Donc à la blanchisserie, je me suis rendu compte qu'il faisait très chaud, très humide, que les gestes étaient ultra répétitifs, qu'elle portait des charges lourdes, parce que le linge, bah, mine de rien, c'est quand même super lourd. Et en fait, ça a forcément un impact. L'infirmière qui remplit les sacs dans les services, quand on dit il faut pas qu'ils soient trop remplis, bah oui, ça a une raison, c'est qu'au bout, y a un mec ou une nana qui va devoir le soulever.
Exactement.
Donc c'est d'où l'importance en fait de revenir à l'origine en fait des problèmes et de pas se contenter de dire plie les genoux et puis descends les fesses pour porter ton sac.
Ouais,
ça n'a aucun sens si on n'a pas fait un travail en amont de pourquoi il est si lourd, pourquoi il arrive, est-ce qu'on peut pas alléger.
Complètement.
Et donc les études de poste, et souvent ça part d'un problème qui est détecté, donc quelqu'un qui a une douleur ou quelqu'un qui révèle une pathologie et il faut adapter le poste. Et on va sur le poste de la personne et on discute en fait de ce que la personne fait au quotidien, de tout ce qu'on peut adapter autour d'elle. Souvent c'est malheureux, mais c'est plutôt la personne qui s'adapte à son poste que l'inverse.
Ah, totalement.
Et alors où on peut avoir quand même du mobilier maintenant très adaptable. On peut avoir des bureaux qui se montent pour travailler aussi un petit peu debout, on peut avoir des souris ergonomiques, on peut avoir des double écrans, on peut avoir... il peut y avoir énormément de choses à faire, mais la personne, tant qu'elle est sur son poste et que c'est son quotidien, elle ne va pas se poser de questions, en tout cas pas tant qu'elle n'est pas gênée ou qu'elle n'a pas de douleur. Donc on va faire ces études de poste, nous les infirmières. Ça nécessite souvent de prendre des photos, de faire des plans... Il y a des choses qui nous sautent tout de suite aux yeux parce que les postes, on les connaît. Puis il y a d'autres choses, des fois, où on va avoir besoin quand même de cogiter un petit peu et de mettre en partage avec d'autres personnes. Ça m'arrive de demander à l'ergothérapeute de l'hôpital, parce que c'est pas son rôle de m'aider en santé au travail, mais de lui demander un avis, en fait.
Okay.
Et puis de partager ça avec le médecin, avec d'autres infirmières de santé au travail, qui ont peut-être l'expérience de ce type de poste et des aménagements qu'elles ont pu proposer. Et puis après, on est toujours soumis à l'acceptation des RH, parce que des fois, il y a des adaptations qui coûtent de l'argent. Et c'est là où tu as un rôle très important, parce qu'il faut arriver à amener en fait la chose de façon maligne, parce que eux, ça va leur coûter des sous. Il faut arriver à leur faire comprendre que la prévention coûte de l'argent, mais que les maladies professionnelles derrière vont leur en coûter plus.
Bien sûr.
Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, même pour un hôpital, la réduction des coûts. Donc il faut aussi arriver à convaincre les gens que la prévention, même si elle coûte de l'argent, va finalement leur faire économiser de l'argent terme. Et on ne peut
Bien
pas
sûr.
Nier ce fait-là, sachant que quand tu es infirmière, l'argent, tu n'es pas là pour penser à ça, ce n'est pas vraiment ton cœur de métier. Et là, quand tu deviens infirmière de santé au travail, il faut le prendre en considération.
Alors du coup, sur la frise chronologique de ta vie professionnelle, nous voilà arrivés en 2022. Et est-ce que à nouveau la problématique de l'ennui s'est posée une nouvelle fois? Parce que je crois savoir que tu es sur une reconversion ou alors en tout cas des envies d'autre chose.
Mais je continue à me former, c'est-à-dire que j'ai toujours continué à me former parce que je me suis toujours dit ben voilà, je veux pas rester sur mes acquis, j'ai toujours eu besoin de me nourrir. Donc en général, quand je finis une formation, je te dis non, c'est terminé, j'en fais plus. Et en général, trois mois après, je recommence. Je sais pas pourquoi, c'est de l'autoflagellation. Hein. Il y a des moments comme ça où je me dis mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi tu t'es relancé là-dedans? Ça va pas. Et puis finalement, je sais pas, ça m'alimente quoi. Ça me fait du bien. Donc là, j'ai commencé une formation de sophrologie il y a 2 ans.
Ok.
Je la termine là, j'ai mes derniers cours fin juillet. En fait, je l'ai fait sur des samedis parce que j'avais pas la possibilité de le faire en version plus raccourcie, sachant que tu peux le faire en version beaucoup plus raccourcie.
Okay.
Mais moi, j'avais que quelques samedis par mois à y consacrer. Donc, j'ai pris la version longue, on va dire.
Bravo.
Et donc, du coup, un samedi par mois, voilà, je vais dans Paris pour me former. Sachant que je suis quelqu'un de très terre à terre, et au départ, la sophrologie, je me suis dit, c'est quand même un truc pour les perchés. Mais vraiment, vraiment. J'en avais fait un petit peu pendant ma grossesse et elle me parlait de faire des câlins aux arbres. Et là, je m'étais dit, bon, là, vraiment, c'est pas pour moi.
Ça va trop loin.
On m'a perdu. Moi, l'infirmière, j'ai besoin de comprendre d'où ça vient, de voir les effets aussi un peu. Bon. Et puis, je me suis dit, mais quand même, j'ai un intérêt pour ça. J'ai l'impression que... Donc, j'ai été voir une sophrologue pour faire le faire sur moi, on va dire, avant, pour tester. Et je me suis dit, tiens, mais elle est normale. donc
pourquoi pas.
Je me suis dit, bon, ça existe. Donc me voilà partie pour me former. Donc je finis là en fin juillet et j'ai choisi une école qui te permet de passer une validation qui est reconnue en titre RNCP.
D'accord.
Reconnaissance. Tu vois, ça y est, ça m'échappe.
Oh, alors là, je pourrais pas t'aider. C'est un terme que je vois, mais j'ai aucune idée de ce que signifie.
En fait, c'est une reconnaissance de tes compétences professionnelles. C'est reconnu par l'État. C'est un titre qui est reconnu
d'accord.
par l'État.
Reconnaissance
et
nationale.
Donc, moi, c'était important aussi, si je me formais, de pas faire ça en 2 heures sur Internet.
Ouais. Tu voulais un truc solide derrière.
Bah, je suis un peu dérangée, en fait, parce que nous, on fait beaucoup de santé publique dans notre travail. Je suis un peu dérangée par tout ce phénomène de coach, de...
Eh oui.
De je m'auto-proclame parce que j'ai perdu 20 kilos, je m'auto-proclame capable de vous aider, quels que soient vos problèmes. Bon, ça me dérange un petit peu et t'as quand même l'impression de pas faire du bien aux gens, quoi. C'est ce que je dis, un conseil qui est pas professionnel, mais finalement vous faites perdre du temps à la personne parce qu'au lieu d'aller voir quelqu'un qui est vraiment professionnel, elle va croire... en vos conseils et peut-être que ce serait une perte de chance pour elle aussi.
Je suis complètement d'accord. On en a parlé dans l'épisode 33 avec Sabrina, qui était cadre formatrice et qui est devenue coach. Et elle a soulevé ce problème et je suis tout à fait d'accord avec elle et avec toi.
Ouais. Moi, ça me gêne énormément. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent sophrologue, naturopathe, hypnothérapeute, je ne sais quoi. Bon. Donc, pour moi, c'était hyper important quand même que ce soit reconnu, de prendre le temps d'apprendre, de pas s'autoproclamer pour n'importe quoi. Et surtout, j'avais envie d'en faire une version, parce que je vois bien les audios qui se baladent sur YouTube, où des fois, c'est rien que l'intitulé est perché. J'ai envie de le rendre accessible aux gens et de leur dire non, c'est pas pour les perchés. Ça a vraiment vocation à vous aider et à trouver les ressources en vous pour... chacun a ses ressources, mais des fois, on doute tellement de soi qu'on n'arrive même pas à les faire émerger. Mmh. Donc je me dis, ça peut aider les gens et j'ai envie de continuer là-dedans, donc pourquoi pas m'en servir après dans le travail.
C'est ce que j'allais te demander, cette formation, tu souhaites l'intégrer dans ton travail actuel, c'est pas forcément pour devenir sophrologue à plein temps derrière.
Non, je suis pas dans l'idée de m'installer en tant que sophrologue, okay. Je préfère l'utiliser après pour les salariés que je suis.
Très bien.
Après, ça prend du temps et bon, pour l'instant... ma direction n'est pas hyper favorable parce que eux, ils payent pour un temps de travail hein, et que les séances de sophro, c'est un petit peu long. Donc, j'espère pouvoir quand même l'utiliser pour un peu de suivi tabacologique puisque je fais des interventions brèves en tabacologie.
Ah, super, ok.
Ouais, donc voilà, j'espère pouvoir m'en servir là-dessus pour essayer de stimuler les gens, de les motiver, de trouver les ressources en eux pour arriver à leurs objectifs. Et puis des fois, j'ai des gens qui arrivent tout simplement en crise dans mon bureau, en pleurs, pour qui ça va pas. Et je me dis d'avoir des petits trucs en plus justement pour les aider à s'apaiser, les aider à prendre du recul sur les situations. ben, je pense que ça peut grandement aider. Donc je pense ce ne sera pas vraiment des suivis de A à Z. Mais j'espère faire un petit peu de suivi, un petit peu de collectif au sein de mon travail. Et puis peut-être après, développer quelque chose en parallèle. Mais l'idée, c'est pas de monter ça de façon à part entière.
Très bien. Et je crois avoir vu un autre projet.
Eh bien, moi, je continue dans mes délires. Hein. Je continue. J'ai vu que le CNED faisait le BTS diététique à distance.
Ah, mais tu veux faire ça à distance? Ok.
Ben, je veux pas quitter mon travail. Donc, j'y suis bien. Tu sais toujours ce que tu quittes. Tu sais jamais ce que tu trouves.
Ah, c'est certain, c'est certain.
J'ai la crainte aussi de me dire, bon, ça va me plaire, mais est-ce que ça va me plaire au point de l'exercer tous les jours, ou est-ce que finalement, j'ai pas juste besoin, moi, de nourrir et d'apprendre encore et de... Mm-hmm. Et voilà, donc je me dis pourquoi pas, je suis encore en réflexion, mais j'aimerais bien. C'est pareil, parce que donner des conseils en nutrition, en santé, ben, faut être un peu légitime et faut pas faire ça n'importe comment.
Cette idée-là, ouais, ok.
Bah dans les suivis que je fais là pour les entretiens infirmiers, je me rends bien compte que les problématiques sont hyper diverses et qu'on ne peut pas répondre à tout sans orienter, et que des fois l'orientation n'est pas possible. Il n'y a pas de professionnel en face, ils n'ont plus de médecin traitant, ils ne vont pas y aller. Donc je me dis que voilà, ça peut être déjà des premiers conseils, on va dire, pour les gens qui en ont besoin, mais à condition d'avoir des conseils professionnels et orientés, quoi.
Exactement. Exactement.
Donc c'est une idée, voilà.
Mais bon, et ben alors affaire à suivre, mais on te souhaite écoute, plein de réussite dans tous ces beaux projets.
Merci.
C'est chouette d'avoir des projets, des envies. Je trouve ça génial. Et puis comme la vie te l'a déjà prouvé au fil des années, bah, toutes ces formations, elles se complètent, et puis un jour elles viennent forcément t'aider dans ta pratique au quotidien, donc c'est génial. Bon, alors Marie, c'est l'instant auto-promo. Alors du coup, je ne me souviens plus du rebranding du compte Instagram. Je le mettrai aussi en description de l'épisode, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Eh bien donc, ça s'appelle Sophro and Nurse. Donc Sophro-du-bas, and pour le et en anglais. Sophro-du-bas, et nurse comme infirmière.
Très bien.
L'idée, en fait, c'est... de donner des conseils vraiment axés santé publique. Donc, il n'y a pas d'orientation vers tel traitement, tel médicament, tel... Mmh. C'est pas du tout l'idée, mais je me rends compte que les gens qui viennent me voir, pour les entretiens infirmiers, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Le suivi tensionnel, bah, comment marche un tensiomètre, qu'est-ce que ça indique comme résultat, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce que je dois noter pour mon médecin. J'ai plus de gynéco, qui va faire mon suivi? Et donc, ben, je pense que vraiment faire de la santé publique de ce côté-là et aider les gens, j'allais dire, c'est pas à s'auto-soigner, mais en tout cas à prendre en charge leur santé et à faire de la prévention dans leur propre vie, mais je pense que c'est super intéressant. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire à plus grande échelle. Donc pour l'instant, c'est tout petit. Et puis ben, j'espère que ça va grossir. Et puis j'y mets aussi un petit peu de Sophro. Sur certaines thématiques, je suis en train de monter des audios de Sophro que je mets sur YouTube. Donc, il y a un lien directement sur mon Insta. Donc, l'idée, voilà, c'est de partager des conseils santé sans remplacer, bien sûr, tout ce qui est médical ou médecin traitant. C'est pas du tout l'idée. Mmh. C'est vraiment d'aider les gens au quotidien. Et puis, de faire un petit peu de Sophro aussi, parce que ça fait du bien pour certaines thématiques.
Mais t'as bien raison. Eh ben super, je mets tout ça dans la barre d'infos et on va finir cet épisode avec le petit portrait chinois. Marie, j'ai encore quelques petites questions pour toi. Si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Eh ben l'outil de prévention qui ferait que justement on n'atterrit pas avec des médicaments, avec des pathologies impossibles et qu'on se retrouve à la retraite incapable d'en profiter.
Très bien dit. Question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail?
Ben, ce serait comment allez-vous?
Ouais,
ou
c'est
comment
vrai.
Tu vas?
Pour lancer la conversation, il n'y a rien de mieux.
Ben, souvent, voilà, c'est question ouverte et puis les gens se lancent derrière. Donc, c'est souvent la phrase fétiche, on va dire, celle que je prononce absolument tous les jours.
Question suivante, si tu étais un médicament, lequel serais-tu?
Ben, ça, c'est une bonne question parce que j'en utilise plus beaucoup des médicaments.
C'est ça.
Et donc, j'ai pas de réponse à ça, malheureusement.
Pas de médicaments. Pas de médicaments est une réponse. Hein.
Bah, on va dire que c'est ma réponse. Pas de médicaments.
Plutôt thé ou café ?
Café.
Très bien. Plutôt crocs ou basket ?
Ah, basket.
Ah ouais.
Beaucoup basket. Surtout maintenant, je travaille... Enfin, j'allais dire quasi en civil. C'est... je suis mi-civil, mi-habillée. J'ai juste la blouse, mais effectivement, j'ai la chance. Ouais. De pouvoir m'habiller en civil en dessous, donc c'est beaucoup plus basket.
Ouais, très bien. Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ? Aïe, aïe, aïe !
C'est difficile à dire, hein,
qu'est-ce qu'elle va nous répondre ?
Et comme j'ai besoin de toujours du mouvement, je dirais le deuxième peut-être.
Ouais, ok. Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'infirmière, vers quelles études, vers quel métier te serais-tu orientée ?
Bah, je crois que ce serait rester dans le médical ou paramédical.
Ouais.
J'aurais bien fait sage-femme. Okay. J'aurais bien fait kiné. Mais à chaque fois, c'est des choses vraiment orientées vers les autres, avec un relationnel, avec quelque chose à apporter aux autres. Donc je pense que ce serait rester là-dedans.
Génial. Eh bien, un grand merci, Marie.
Merci à toi.
Très contente d'avoir... pu t'écouter pour nous parler de cette facette du métier qui, comme on se le disait, est victime de beaucoup de stéréotypes. Et je trouve ça marrant de savoir que même toi, avant de démarrer une carrière dans la santé au travail, même toi, t'avais des a priori sur le métier. Donc,
Oui, énorme. J'espère que j'ai donné envie à d'autres de s'y intéresser.
C'est certain, moi j'en suis sûre. Merci beaucoup Marie, puis bonne continuation dans tous tes projets.
Merci beaucoup Marielle.
À bientôt.
À bientôt.
Cet épisode avec Marie conclut la saison 2 du podcast. Un immense merci pour toutes vos écoutes, vos messages et vos encouragements. Le podcast Compresse Esparadrap prend 2 mois de vacances et je vous donne rendez-vous tout début septembre 2022 pour de nouveaux portraits, de nouveaux partages et encore plus d'émotions. À très bientôt.